42. 42 fut la réponse du plus gros ordinateur jamais construit dans l'univers, dans le film, le guide du voyageur galactique, à la fameuse question, quel est le sens de la vie, de l'univers et de tout ce qui existe? Et il y a une race qui est hyper intelligente qui a construit ce gros ordinateur et l'histoire du film, c'est de découvrir dans le fond, c'est quoi la réponse à cette fameuse question, quel est le sens de la vie, de l'univers et tout ce qui existe? Et quand ils ont posé la question à cet ordinateur, l'ordinateur a pris 7 millions d'années à calculer quelle pourrait être la réponse. Et 7 millions d'années plus tard, ils sont arrivés et ils ont dit quelle est la réponse à la question, quel est le sens de l'univers, de tout ce qui existe. Et l'ordinateur a dit, vous n'aimerez pas la réponse. C'est pas grave, on veut savoir. Et des milliers de personnes étaient rassemblées. Et la réponse est, et il fut un grand silence, 42. Et l'ordinateur dit, il aurait été facile si j'avais su c'était quoi la vraie question. Et il dit, quelle est la vraie question? Ben, il dit, je peux pas vous le dire. Et là, on apprend qu'ils construisent un ordinateur hyper incroyable, jumelé avec la biologie, qu'ils vont découvrir quelle est la question, et ils ont créé les humains pour qu'on puisse poser la bonne question. Ah, quel film merveilleux! Et ça vaut souvent la peine de commencer par un brin d'humour avec le sujet qu'on a aujourd'hui. Et quand j'ai proposé de prendre la place de Gabriel Paquin à cause des événements qui étaient dans sa vie, vous savez qu'il a perdu un enfant lors de son accouchement cette semaine. Et c'est rare, mais ça m'a pris une minute à savoir quel sujet je prendrais aujourd'hui pour le remplacer. Vivre par la foi dans un monde de souffrance. Question qui nous interpelle tous et chacun. Aujourd'hui, c'est la question. Voici l'objection. Si Dieu était bon, il souhaiterait de rendre ses créatures parfaitement heureuses. Et si Dieu était tout-puissant, il pourrait accomplir ce qu'il souhaite. Or, les créatures ne sont pas heureuses. Donc, Dieu est dépourvu, soit de bonté, soit de puissance, soit des deux. J'ai résumé plusieurs livres en plusieurs commentaires. C'est un argument qui est depuis Épicure, je pense, 200 ans avant Jésus-Christ. C'est pas nouveau. Je l'ai résumé d'une autre façon. Si Dieu est amour, alors il ne peut permettre autant de souffrance. Si la souffrance existe, alors soit il ne peut l'arrêter, alors il n'est pas tout-puissant, ou il ne le veut pas, donc il n'est pas bon. Par conséquent, Dieu n'existe pas. On me pose souvent quelle est la question la plus difficile que j'ai pu répondre dans ma vie. Et c'est probablement la question la plus difficile auquel on doit faire face. Et c'est un véritable défi pour nous chrétiens, particulièrement parce qu'on est les seuls à proclamer un Dieu d'amour. On est les seuls à dire que Dieu est amour. Il faut répondre à cette question-là. L'objection est sérieuse. Elle nous implique tous et chacun et il faut répondre. Et c'est un véritable défi. Dieu est amour. Et pour ne pas vous embarrasser avec cet argument, pour que tout le monde parte avec des doutes, je vais répondre. Et je vais donner, en quelque sorte, un peu trois arguments pourquoi c'est un argument qui n'est pas valide. Et en même temps, ça va dresser un portrait de comment on pourrait répondre à la question. Et ensuite, on va regarder comment que Habacuc, qui a posé la même question, Dieu a répondu. Et on va regarder c'est quoi la réponse que Dieu a donnée à Habacuc. Ce type d'argument, malgré qu'il semble impressionnant, quand on se fait dire ça, comporte certaines faiblesses. Premièrement, c'est qu'elle nous invite dans une contradiction qui n'est pas nécessaire. Je peux pas prouver la non-existence de quelque chose en supposant dans mon argument qu'il existe. Si Dieu est amour, blablabla, donc il peut pas exister. Tu sais, c'est un non-sens. Tu sais, ma conclusion prouve mon raisonnement. Donc, c'est un argument qui est pas valide. Et dans les milieux universitaires, on a reformulé cet argument d'une autre façon. Je peux penser à André Comte-Sponville, qui est un athée, qui ne croit pas en Dieu, professeur d'université, conférencier en France, qui lui reformule son argument, et il reformule l'argumentation pratiquement dans les termes d'Habacuc. Lui, il ne dit pas que la souffrance, comme qu'on la perçoit, nie l'existence de Dieu. Il va plus loin que ça en disant qu'il y en a trop. Il y a trop de souffrance, donc Dieu ne peut pas exister. Et il suffit de mettre des chiffres à ça. Et c'est, pour répondre à cet argument-là, il suffit tout simplement de mettre des chiffres. Il y en a trop. OK, 1 million, c'est pas pire. 1 million 1, là, c'est trop. Alors, ce qu'il essaie de nous dire, est-ce que les personnes qui rejettent Dieu à cause de cet argument-là essaient de nous dire, c'est que je n'aime pas que les gens souffrent, je ne veux pas que Dieu existe. Deuxièmement, c'est un argument qui nous invite à faire un choix qui n'est pas nécessaire, soit qui est bon ou soit qui est tout-puissant. Mais il ne peut pas être les deux. Pourquoi? Et ça me fait penser, je disais à ma femme l'autre jour, ma femme vient me voir, elle dit, qu'est-ce que t'aimes mieux? Elle dit, une belle femme ou une femme intelligente? Ah, je dis, ni une ni l'autre, chérie, tu sais, c'est toi que j'aime. Un brin d'humour pour montrer la futilité de cet argument. Pourquoi faire un choix? Pourquoi? Est-ce qu'on peut être beau et intelligent? Non, juste c'est un des deux. Tout puissant ou amour, mais les deux, non. Tu sais, et on nous embarque pour faire un choix qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire. Troisièmement, le point de départ de la réflexion n'est pas bon. Pour eux, ils présupposent que le but de la vie, le sens à la vie, c'est que Dieu devrait nous fournir un contexte d'épanouissement, de jouissance et de plaisir, et la souffrance ne participe pas à ça, et donc Dieu ne peut pas exister, sinon il faudrait qu'il nous fournisse ce contexte-là. Et donc, le sens de la vie, c'est la recherche de joie centrée sur l'individu. Mais on pose la question en termes chrétiens. Alors, pourquoi injecter dans l'argument ou dans la question le présupposé matérialiste qu'il y a juste les plaisirs qui existent? Et si le sens de la vie ou le but de la vie n'était pas la recherche égocentrée de mes propres plaisirs, si je me trompais, la question n'a pas de sens. Et si on pose la question en termes chrétiens, si Dieu est amour, il faut que je démontre, en termes chrétiens, que ce n'est pas consistant. Mais c'est consistant. Et aujourd'hui, je vous invite à tourner dans les pages collées de la Bible. Habacuc. Ceux qui ont une Bible MacArthur, c'est à la page 1311. Une Thompson, 1073. Vie Nouvelle, 1332. Et pour tous les autres, vous tournez à peu près dans le milieu de l'Ancien Testament. Et là, on trouve le prophète Daniel. Après ça, c'est Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée, Nahum. Et enfin, Habacuc. Qui a lu Habacuc dans la dernière semaine? Le dernier mois? La dernière année? Qui a déjà lu Habacuc? Et pourtant, et aujourd'hui, je vais essayer de dresser une vue d'ensemble du portrait de ce livre qui comporte en fait 2 pages et demie. Et pour vous tracer un portrait. Donc, on va regarder un petit peu le contexte du prophète Habacuc. Mais principalement, évidemment, dans le sujet de la souffrance, je vais m'attarder surtout au verset 4, qui est le centre du message d'Habacuc. Verset 4. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Trois choses. Quatre. On va regarder le contexte, on va regarder la foi, on va regarder qu'il y a un gros problème pour nous, et on va regarder aussi la solution qui nous est proposée dans le livre d'Habacuc. Et je suis certain que, si votre page n'est pas collée, qu'on a besoin de regarder un petit peu la vue d'ensemble de ce prophète. Et si vous remarquez, à première vue, il y a trois chapitres. Les trois chapitres, on pourrait les diviser à partir du verset 1, du chapitre 1, jusqu'à environ le verset 12. Et dans cette section, c'est la première plainte d'Habacuc. Et Habacuc, je vous disais qu'il formule la souffrance, et on va lire les versets 2 à 4. Le premier verset, c'est la présentation. Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? T'écrirai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. » Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée. Le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Et quand on voit, parce qu'on connaît le verset, mais le juste vivra par la foi, parce qu'il est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Trois textes d'une importance pour la foi chrétienne. Et quand on le met dans son contexte dans lequel il l'a écrit, on voit qu'il l'écrit dans un contexte de souffrance. Et donc, le contexte va nous fournir un portrait de c'est quoi vivre par la foi. On a de la difficulté, la deuxième section. Et on a divisé jusqu'au verset 12, la première plainte. Du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre 2, la deuxième plainte. Et tout le chapitre 3, c'est une prière ou un psaume d'Habacuc où ce qu'il loue Dieu. Et c'est un petit peu la division du livre d'Habacuc. On a de la difficulté à situer avec une date précise Habacuc, mais le discours du livre nous dit que c'est à peu près un contemporain du prophète Jérémie. Et Jérémie, on sait qu'il a écrit dans une période très, très sombre de l'histoire d'Israël. Il y a certains éléments qui pointent vers le fait qu'il a écrit pas longtemps après la mort du roi Josias. Israël, qui était le peuple de Dieu, a eu sous le règne du roi Josias une certaine prospérité et relative, si on veut. Et à la mort du roi, ça a commencé à se dégrader. Et très rapidement, le péché, la débauche caractérisaient le peuple d'Israël. Le cœur du peuple s'est en quelque sorte assombri, puis il y a un virage dans la mentalité du peuple, puis le peuple tombe en discrédit, tombe dans le péché. Puis c'est ce qu'Habacuc il voit. Le juste est assailli, il y a des menaces des nations étrangères, babyloniennes, chaldéennes, pour venir envahir Israël. Puis Habacuc, la vision qu'il a, c'est une vision de souffrance. Dieu fait voir la souffrance à ce prophète-là. C'est un livre important parce qu'il contient des grandes expressions. Mais il semble avoir deux problèmes dans le livre d'Habacuc. Le premier, c'est l'apparence de l'absence, l'apparente absence de Dieu. Malgré, jusqu'à quand je vais crier, puis tu ne fais pas venir la justice, il ne semble pas avoir de justice. Deuxième problème, beaucoup pensent que le verset 4 du chapitre 1 parle du fait que les pauvres sont exploités par les riches dans le peuple d'Israël. Le juste est assailli, le droit, il n'y en a plus, et le droit, à qui qu'il fait respecter? Est-ce qu'avez-vous déjà senti qu'il n'y a pas de justice dans notre politique? C'est le journal de Montréal d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et Habacuc crie, c'est le cri de son cœur. Et le cri du cœur, on peut le résumer en 3-4 mots. Dieu, où es-tu? Pourquoi tant de mal? Vas-tu répondre à m'emmener? Vas-tu rétablir la justice? Et Dieu répond à la question d'une façon un petit peu surprenante, parce que la réponse de Dieu à Habacuc va soulever encore plus de problèmes. Et comment ça soulève plus de problèmes? Il dit, OK, je vais envoyer les Babyloniens vous détruire. Attends, là. Tu prends un peuple pire que nous sommes pour nous détruire. Comment un Dieu bon et saint peut utiliser le mal pour faire sortir quelque chose de bon? C'est ça qu'Habacuc est consterné. Deuxième plainte d'Habacuc. Il utilise un peuple encore plus méchant. Pourquoi pas juste restaurer tout simplement la justice? Pourquoi utiliser un peuple pire? Et comment faire sortir du bon à partir du mal? Et Dieu donne deux réponses. Une qu'on pourrait dire partielle et une plus profonde. La réponse partielle serait environ comme ceci. Habacuc, pense pas que le peuple par lequel je vais utiliser pour punir mon peuple, pense pas qu'il va être épargné. Le peuple que je vais utiliser est orgueilleux, il est violent, je suis d'accord. Mais je vais l'utiliser d'une façon à ce que quand il va avoir servi mes intérêts, je vais le détruire. Je vais prendre la verge et je vais le mettre en 1000 morceaux parce qu'il va être aussi coupable de son orgueil. Mais c'est juste une réponse partielle. La réponse plus profonde concerne moins les circonstances dans lesquelles Dieu va travailler, mais ça concerne le caractère de Dieu dans ces circonstances-là. Voyez, la question de base, c'est la personne de Dieu, les attributs de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, pour la vie d'Habacuc. Et Habacuc va apprendre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Ça, c'est le genre de sujet qu'on dit, « Ha! Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, j'ai plus besoin de réfléchir. » Plus de problème, pas de question, il prend un peuple, détruit l'autre, c'est fini là, on est des pantins, on ne réfléchit plus. Bel échappatoire. Réponse simple, non. Dieu ne se contente pas de donner simplement une réponse partielle, mais une réponse plus profonde qu'on pourrait résumer dans ses paroles, simplement comme ceci, « Mais le juste vivra par la foi. » La foi, qu'est-ce que c'est ça? La réponse la plus profonde que Dieu a pu donner à Habacuc, c'est « Tu vivras par la foi. » Ça, c'est le plus profond que Dieu peut faire. C'est évident que si on prend la foi dans nos termes que nous avons aujourd'hui, c'est un non-sens. Parce que la foi pour nous aujourd'hui a souvent cette connotation de choix personnel, moral, religieux. L'importance d'avoir la foi. Dans ta foi, j'ai la mienne. Si Dieu existe, de toute façon, Dieu est amour, fait qu'on va tout aller à la même place, fait que peu importe la religion que tu vas avoir, la vérité, peu importe, L'important, c'est être sincère. Jésus a parlé d'amour. C'est ça la foi qui est transmise aujourd'hui. Et évidemment, ça va être difficile de répondre à la question si pour vous, la foi, c'est simplement un choix de sincérité que je fais dans une religion. Là. Vous pouvez être sincère dans votre religion, si vous êtes dans l'erreur, vous êtes sincèrement dans l'erreur. C'est simple comme ça. Et on essaie de nous convaincre que c'est le seul type de foi qui existe. Non! Et ce n'est pas du tout la foi qu'Habacuc propose. Et comment donc comprendre ce passage « Mais le juste vivra par la foi » Premier mot de la deuxième partie du verset, « Mais ». Mais, il y a un contraste qui est établi entre deux personnes. Celui qui rejette Dieu et celui qui met Dieu au centre de sa vie. Première partie du verset, celui qui rejette Dieu, son âme est enflée, elle n'est pas droite. Et celui qui met sa confiance en Dieu est appelé un juste qui vit par la foi. Ici, dans le contexte, ça peut être soit les Babyloniens qui vont venir envahir, qui est l'injuste, mais ça peut faire partie aussi du peuple de Dieu, qui met de l'oppression sur le peuple. Et il y a un humble croyant qui vit par la foi. Le terme « foi » en hébreu signifie « fidélité », « tenir ferme », « s'appuyer ». Dans le texte, la foi dépend du verbe « vivre ». Frédéric Godet dit ceci, c'est-à-dire, il vit par sa foi, c'est évidemment qu'il a été rendu juste par elle, puisque nous sommes sauvés comme justes. Le juste vit par la foi par laquelle il a été rendu juste. Dans ce verset, il semble y avoir deux notions qu'on pourrait qualifier d'essentielles. Premièrement, il y a cette notion de justification. Le juste. Le juste, c'est quelqu'un qui est justifié. Mais il y a aussi cette notion de persévérance. Il va vivre par la foi. Il va vivre en ayant une constante confiance en Dieu. Regardons les deux notions de plus près. Dans le contexte immédiat, la notion de justification prend son sens quand une personne met sa confiance dans la promesse de Dieu. Et ça, c'est le verset 3. Dans le contexte, l'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision. » Verset 2. « Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Il est important de se rappeler dans le contexte de la souffrance que Habacuc voit des choses. Mais c'est un appel aussi à se préparer parce que le gros s'en vient, n'est pas encore arrivé. Si ça tarde, attends, mais ça va arriver. Et la promesse dans laquelle il doit avoir confiance, c'est quoi? C'est que mon peuple va se faire détruire, mais que le juste va vivre. J'ai un Dieu qui donne la vie et je mets ma confiance en ce Dieu qui a la capacité, qui a la vie en lui-même pour me l'accorder. Au contraire de l'orgueilleux, lui va être détruit. C'est un texte fondamental pour la théologie chrétienne. Trois textes qu'on parlait tantôt, Romains 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38, utilisent ces versets. Et en plus, non seulement qu'ils utilisent le juste vivra par la foi, Paul, dans Romains, et dans Galates, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, conserve le contexte d'Habacuc. Il y a une promesse qui est faite que le juste va vivre et que le méchant va être détruit. Et l'emphase est sur la justification et la persévérance. Dans Romains, il veut la colère de Dieu va s'abattre sur tout le monde, mais celui qui va être justifié va vivre. Dans Galates, c'est le point qu'il veut faire aussi. Et dans Hébreux, il conserve la notion de persévérance pour montrer que le chrétien, malgré l'affliction qu'on peut recevoir, persévère. Et même dans la théologie chrétienne, les deux notions sont conservées de ce verset. Mais on a quelque chose de plus qu'Habacuc n'avait pas. Parce qu'on vit de l'autre côté de la croix. Lui vivait avant ça. Mais il nous annonçait quand même des choses qui devaient arriver plus tard. Et la croix, si on regarde, parce que oui, Habacuc, il voit que le juste est opprimé, qu'il vit des souffrances, mais plus loin que ça, la Bible développe encore plus le sujet de la souffrance du juste à travers la croix de Jésus. L'événement le plus écœurant de l'histoire de l'univers. Le juste parfait qui souffre pour prendre la place de l'injuste. Il n'y a pas d'événement de plus honteux, de plus disgracieux, de plus... Mettez le terme que vous voulez, ça ne se peut pas. Et la Bible va encore plus loin que ça. Et quand on considère la question qu'Habacuc pose, c'est-à-dire, est-ce que Dieu peut faire sortir du bon à partir du mauvais? Et on pose la question en termes chrétiens, et on dit, on prend la croix et on dit, OK, si on regarde la croix et qu'on dit, est-ce que Dieu peut faire sortir du bon à partir de l'événement le plus terrible que l'histoire de l'univers a pu avoir? Ça commence à faire un non-sens. Parce que à travers cet événement-là, il nous dit que c'est la plus grande victoire de Dieu. Et Dieu peut faire sortir du bon à travers ce qui nous semble être le plus dégueulasse. Le triomphe de Dieu à travers la souffrance. Habacuc annonçait ça en 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvre le fond de la mer. La gloire de Dieu va être sur toute la terre. Les promesses que Dieu fait à l'humanité commencent dès la Genèse. Dans Genèse, il fait une promesse à Abraham que par sa descendance, toutes les générations vont être bénies à cause d'Abraham. Ensuite de ça, ici, il nous annonce qu'il va y avoir dans la descendance quelque chose qui va faire que la gloire va être transmise sur toute la terre. C'est ce que fait Galates 3, 8 à 11. Il montre qu'Abraham a eu la promesse. Il montre que la gloire va être sur toute la terre. Comment? À cause d'un peuple, ceux qui ont la foi. Et ceux qui ont la foi, c'est le peuple que Dieu a racheté. La bénédiction universelle promise à Abraham qu'Habacuc nous annonce, c'est à travers l'Évangile que c'est accompli, à travers des vies transformées. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit qu'on est transformé de gloire en gloire et qu'on reflète comme un miroir la gloire de Dieu. Et notre rôle, c'est quoi? Si on reflète la gloire de Dieu dans toutes les nations, c'est certainement pas de le garder entre les quatre murs ici. C'est pour aller à travers le monde. Mais la gloire de Dieu semble tellement évidente dans le livre d'Habacuc. Fait, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Elle va couvrir comme l'eau recouvre tout le fond des océans. En 2,14, on lit ensuite de ça en 3, verset 4. C'est comme, mettons verset 3, la moitié du verset 3, « Sa majesté couvre les cieux, sa louange remplit la terre. » C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. La voilà, sa force cachée. Et il me semble qu'on lit la Bible et la gloire de Dieu, c'est un des thèmes qui devrait être évident. Et pour certains, et pour la grande majorité, la gloire de Dieu est difficile à voir, surtout dans des temps de souffrance. Pourquoi? Une des raisons que le prophète nous décrit vient en partie de la description qu'il fait de l'humain. Il n'y a pas d'intermédiaire dans Habacuc, dans toute la Bible d'ailleurs. Il y a ceux qui croient en Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu, et il y a ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Verset 4, 2, 4, il y a sa confiance en lui-même, il s'est enflé, il est orgueilleux en lui-même. Son âme n'est pas droite en dedans de lui, mais le juste, lui, va vivre par la foi. Deux types de personnes, la foi en Dieu, ils n'ont pas la foi en Dieu, c'est simple comme ça. Toute la section qui suit, verset 5 jusqu'à 19, parle du comportement de ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Et on arrive au verset 18, et il y a ce verset qui est incompréhensible pratiquement, parce que le verset 17 nous parle de violence qui viennent, que les troupeaux sont pillés, le sang humain coule, et là, verset 18, à quoi sert une statue? Mais dans Habacuc, il n'a jamais parlé d'idolâtrie. Et là, il y a deux versets qui traitent de ça. Pour que l'artisan la taille, à quoi sert une statue pour que l'artisan la taille? Une image de métal fondu enseignant le mensonge. Pour que l'artisan qui l'a façonné se confie en elle au point de fabriquer des faux dieux muets. Malheur à celui qui dit au bois, « Lève-toi, à la pierre silencieuse, réveille-toi. » Enseigne-t-elle, la voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle, pas le moindre esprit. Quel est le problème de ceux qui ne croient pas en Dieu ou du chrétien qui perd la confiance en Dieu? Ils vivent sous une illusion. Quelle illusion? De se suffire en lui-même. On suffit en nous-mêmes. Fondamentalement, c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Ici, dans les deux versets, l'idolâtrie, il prend une statue de bois, de pierre ou d'autre qu'on va plaquer d'or et qu'on va rendre un culte. Mais si on prend la Bible dans son ensemble et on regarde la description qui est faite de l'idolâtrie, on voit que c'est tout ce qui remplace la gloire de Dieu. Le plus beau verset, Romains 1, 21. Ils n'ont pas glorifié Dieu, alors ils se sont fait des idoles. Et en passant, c'est un verset qui suit la citation de « Le juste vivra par la foi ». Mais Romains 1, 23 continue. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Et c'est un verset qu'on devrait connaître par cœur, sauf quand on est en avant. On a toujours des blancs en avant. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme, les quadrupèdes, etc. C'est un échange de la gloire de Dieu pour la gloire de d'autres choses qui est moindre. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qui remplace Dieu? C'est de l'idolâtrie. C'est un échange. On n'a pas voulu, on change la gloire de Dieu. Le problème de la souffrance, formulé ou perçu en termes d'Habacuc, qui est encore véhiculé aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème en quelque sorte parce que si je rejette la gloire de Dieu, si je suis idolâtre, c'est en quelque sorte parce que je me mets le centre de toute chose. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer le sens de la vie. Je vais déterminer qu'est-ce que Dieu devrait nous fournir. Il devrait nous fournir une espèce d'environnement dans lequel je dois être heureux. Voyez-vous la subtilité de comment ça peut être facile de mettre n'importe quoi qui va remplacer Dieu. Et la souffrance, c'est quelque chose qui met en évidence le fait que, justement, c'est facile. J'ai une inclinaison à l'idolâtrie. L'idolâtrie est écrite matériellement, mais mettez quelque chose. Martin Lloyd-Jones, en décrivant l'idolâtrie, nous dit ceci. Une idole est quoi que ce soit qui a un contrôle dans ma vie tel qu'elle attise mes émotions, m'éveille, m'attire si facilement que je lui donne de mon temps, mon attention, mon énergie et mon argent, et cela sans effort. Avez-vous une inclinaison à être idolâtre? Sex, drug and rock and roll? Eh oui, on est facilement idolâtre. Et la façon qu'on réagit face à la souffrance devrait mettre en évidence qu'on a cette facilité-là. Et quel est l'état de votre cœur quand que la souffrance vient? Et c'est un bon indice de la façon qu'on va réagir à travers la souffrance qui va nous montrer vraiment l'état réel de notre cœur. Il y a des personnes, quand ils souffrent, qui veulent tellement avoir d'affection que tout l'univers au complet tourne autour d'eux. Alors là, ils vont vous compter les problèmes pendant des soirées de temps. Puis on pourrait lui donner notre vie au complet, puis ça ne serait pas assez, parce qu'ils veulent de l'attention. Il y en a d'autres qui, eux autres, c'est l'amertume la plus profonde. Beaucoup vont quitter les églises, entre autres, parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. L'amertume, colère. La souffrance met en évidence ma dépendance de quelque chose de plus grand que moi-même. Quelle est la solution? La solution peut paraître facile à dire, le juste vivra par la foi. Et pourquoi la foi? N'est-ce pas une marque de faiblesse, justement, la foi? La psychologie moderne tente de nous dire que la foi, dans les temps de souffrance, est ce repère dans lequel la faiblesse de la nature humaine va aller chercher du réconfort. Et dans le fond, c'est bien parce que ça l'évite, ça donne un peu une espérance à un individu. C'est une marque de faiblesse pour notre société. Mais il suffit de regarder comment c'est difficile d'avoir la foi en Dieu pour voir que ce n'est pas une marque de faiblesse. Au contraire. Et j'espère avoir donné brièvement et essayer de donner un petit topo de c'est quoi la foi pour montrer la difficulté de la chose. Ma facilité à m'éloigner de Dieu au lieu d'y retourner. Ma facilité à aller chercher de l'affection et à me mettre au centre de toute chose alors que Dieu est supposé être plus satisfaisant. Et que fait la foi? Quatre leçons que j'ai tirées du livre d'Habacuc. Quelques applications. La foi découvre que Dieu est souverain et qu'il soutient toutes choses. De nombreuses personnes ont demandé le pourquoi qu'il souffrait. Job, 37 chapitres à dire pourquoi que je perds tout. Ma femme, mais tu sais, maudit Dieu et meurt. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est comme donner un coup de pied à un tank, un char d'assaut, tu sais, maudit Dieu, tu sais, ça ne change rien. Tu sais, c'est maudit Dieu et meurt. Sa femme est contre lui. Il perd tout, plus de troupeau, plus de santé. Il se gratte avec des tessons de bouteilles. Il est triste à la cendre. Puis pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Et Dieu arrive, se révèle à Job, et tout d'un coup, il fait faire une visite dans un centre d'astronomie. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? T'as-tu vu la neige quand elle tombe? Regarde la lumière. Où étais-tu? T'as-tu vu le soleil quand je l'ai formé? T'as-tu vu? Et là, quand ça s'est fait, il l'amène dans un zoo. Et qu'est-ce qu'une visite dans un zoo selon Dieu? Regarde le crocodile. T'as-tu vu la chèvre? Elle s'incline même quand elle va enfanter. Okay. Crocodile, hippopotame, chèvre. Pourquoi, quand je souffre, un hippopotame peut m'être utile? Sors de toi. Regarde les merveilles que je peux faire. C'est comme s'il est en train de montrer à Job puis à Habacuc, regarde les merveilles que je suis capable de faire. Et tu penses que je ne serais pas capable de faire ça? La foi découvre qu'on a un Dieu souverain. Quand tout semble s'écrouler autour de moi, lui contrôle. Il n'est pas surpris dans les événements. Et c'est tout le chapitre 3. Il loue Dieu parce qu'il est souverain. Wilson Benton, je pense, résume ceci. C'est comme si Dieu dit à Habacuc, tu es une personne à un endroit précis dans l'immensité de l'univers, dans un temps précis, à un lieu précis. Même si Dieu choisit de vous expliquer comment toutes les pièces du puzzle géant sont assemblées d'une manière conforme à sa nature juste et sainte, en accord avec sa propre miséricorde et son amour, afin qu'il puisse accomplir fidèlement sa promesse dans votre vie et tout le travail qu'il doit faire pour votre bien, vous ne pourriez pas le comprendre. Mais vous pouvez croire que lui le comprend. Et vous pouvez croire que Dieu a assez d'amour et qu'il est assez puissant pour faire ce qu'il dit quand il vous dit que tout est pour votre bien. Deuxième point, la foi glorifie Dieu. Elle le glorifie au sens où ce qu'elle honore Dieu. Elle met Dieu au centre de toute chose, comme quoi qui est le plus satisfaisant pour nous. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui peut être plus satisfaisant que votre Créateur? Dans le contexte immédiat, il y a un jugement qui s'en vient. Habacuc voit des choses horribles, et malgré ça, malgré qu'il semble avoir un délai dans lequel il subit des souffrances, puis qu'il sait que ça va être encore pire, il sait que le salut va venir. La foi glorifie Dieu parce que Dieu est au centre. Elle nous pousse à enlever puis à déraciner les idoles que j'ai en moi afin que lui soit le Dieu de ma vie. La foi, ce n'est pas un acte ponctuel dans le temps. Ah, j'ai la foi. C'est un mode de vie. La foi, c'est un mode de vie. Je vais vivre selon la foi. Je vais vivre d'une façon qui glorifie Dieu. La foi vécue rend gloire à Dieu. Il veut faire quoi? La porter aux extrémités de la terre. Dieu est glorifié quand sa gloire est proclamée. Arcis Sproul nous dit ceci, « Garder la foi dans les temps de souffrance est en quelque sorte une réponse à la souffrance. Elle montre que Dieu est plus satisfaisant que tout, et en cela, Dieu est glorifié. En dépit de nos souffrances, nous avons confiance de reposer en lui. Dieu est glorifié par notre foi. » Troisièmement, la foi persévère. Le juste vivra par la foi. Romains 8, 28, il y a cinq éléments. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a appelés. et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qui sont justifiés vont être glorifiés. Et dans ces cinq choses, il n'y en a pas une qui découle de moi. C'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui me prédestine, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui me glorifie. Autrement dit, c'est que je peux persévérer parce que Dieu me préserve. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'aura jamais de souffrance. Et si vous pensez qu'un chrétien n'aura jamais de souffrance, je vous invite à refaire votre théologie aujourd'hui. Et 1 Pierre 5,10, je pense que c'est un bon verset d'ailleurs, ça me vient à l'esprit. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, il nous appelle à ça après que vous ayez souffert un peu de temps. C'est comme un processus inévitable dans lequel il se glorifie. La croix, on médite la croix de Jésus beaucoup, souvent, parce qu'elle fait, elle nous justifie. Mais elle est aussi un modèle pour nous. Elle n'est pas juste un modèle, mais elle n'est pas moins qu'un modèle. Et on peut persévérer parce que Dieu préserve. Et quatrièmement, Habacuc 3, 18 est peut-être le verset le plus beau de toute la Bible. Vous voulez une vision pour votre vie chrétienne? C'est ce verset. Et gardez à l'esprit qu'Habacuc est en train de voir que tout autour de lui semble dire que Dieu n'existe pas, qu'il est en train de croire pour rien, qu'il souffre, il ne sait même pas si lui-même va survivre à ça. Écoutez ces paroles, verset 18. « Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. » Pas ma faiblesse, ma force. « J'exulterai » avec un « U » et non un « A ». Et le dictionnaire le définit comme ceci. Le perdu sur ma feuille. Ah. Avec un U, exulter, éprouver une joie si intense que l'on ne peut la dissimuler. Éprouver une joie intense en l'Éternel. Le plus beau verset de toute la Bible. Trouver ma joie suprême en Dieu, même quand tout semble se dégrader. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu glorifie Dieu. La foi en Dieu découvre Dieu d'une façon toujours de plus en plus intime. La foi en Dieu persévère parce qu'il me préserve. Et ça doit nous pousser, pareil comme Habacuc, à exulter, à trouver notre joie en Dieu. En fait, le sens à la vie, c'est la joie puis les plaisirs. Mais pas des joies égocentrées. Des joies que Dieu est ma suprême joie. Habacuc a choisi de louer Dieu au lieu de se plaindre. Il choisit de chanter à travers un cantique et de prier au lieu de se lamenter sur son propre sort. Il choisit d'intercéder pour les autres en écrivant son livre, pour que ça puisse être une bénédiction aussi encore pour nous aujourd'hui. Dieu glorieux, réjouissons-nous. Est-ce que ça se dégrade dans votre vie, votre univers s'effrite? En justifiant, il nous donne l'habileté à se réjouir en lui. Le but suprême de la vie. Jonathan Edwards a dit ceci: Dieu est glorifié non seulement quand la gloire est vue, mais par le fait qu'on se réjouit en elle. Quand ceux qui voient prennent plaisir en elle, Dieu est plus glorifié que si elle est seulement vue. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Il découvre la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous amène à être stagnant. C'est quelque chose qui nous amène à exulter, à sortir la joie que Dieu lui-même nous met en nous. En termes modernes, ça irait comme ceci. Même quand mon budget ne fonctionne plus, que les marchés boursiers s'effondrent, que le prix de l'essence monte en flèche comme une fusée, que le prix de l'épicerie semble exorbitant, même quand je perds mon enfant, même quand j'ai un cancer, même quand que, 3 points de suspension, je perds ma maison, mon travail, mon emploi, mon employeur me fraude, il faut que je paye 800$ d'impôts, je me réjouirai en l'Éternel. Pouvez-vous, puis je pense que c'est l'exercice d'une vie. C'est difficile d'arriver là et de ne pas être conscient que ça va être toute ma vie que je vais apprendre à prendre des plaisirs en Dieu. En fait, je ne sais pas si on va être toute l'éternité pour découvrir ça, ou si bien commencer maintenant. J'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. La foi découvre que Dieu est souverain et qu'il soutient toutes choses. La foi glorifie Dieu, la foi persévère, la foi exulte parce que c'est un mode de vie qu'on doit adopter en tant que chrétien parce que Dieu est tellement merveilleux. Prions. Oui, Seigneur Dieu, peut-être qu'il y a des amis ici, des visiteurs, des frères, des sœurs qui luttent avec cette question. Si tu es bon, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Tu connais le cœur de chacun. Déracine en nous cette propension à se mettre le centre de toutes choses alors que tu veux prendre la place. La foi te glorifie, Seigneur. Et on veut te remettre nos vies, qu'est-ce qu'on peut te donner de plus? On ne méritait pas cette grâce-là, Seigneur. Et fait que ça devienne la vision de toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, aussi, afin qu'on puisse manifester ta gloire que tu as mis en nous, parce que tu nous aimais. Tu soutiens toutes choses, Seigneur. La foi, c'est qu'est-ce qu'on a de plus précieux, parce qu'elle repose sur le Dieu de l'univers. Fait que chacun de nous, ça ne devienne pas une tradition ou une habitude de dire que j'ai la foi, mais que ça devienne l'exercice d'une vie, même dans les temps de souffrance. Bénis Gabriel et Mélanie et la famille qui viennent de perdre un enfant, Seigneur. Sois exalté et glorifié, même si on ne le voit pas avec nos yeux présentement. Mais tu soutiens toutes choses. Amen.